D'avoir avec nous Jonathan Cartes, un membre très actif de notre église avec toute sa famille qui se sont occupés beaucoup des enfants pendant toute la pandémie avec l'école du dimanche à la maison et des choses fantastiques. Merci Ada encore de tout ce que tu as fait. Et voilà, nous sommes aussi dans une série de prédications et donc le texte d'aujourd'hui, c'est pas choisi au hasard, c'est la série de prédications qui se poursuit. Et donc je cède avec plaisir la parole à mon frère Jonathan. Enlève ton masque, Jonathan.
Oui. On ne sait pas qu'on l'a même, on l'a pas. Bonjour à vous tous. Permettez-moi de commencer par la prière. Merci Seigneur pour ces rencontres très très spéciales et attendues et depuis longtemps par nous tous. Merci pour pouvoir prendre les symboles tous ensemble Seigneur. Et merci maintenant pour aussi nous pouvoir nourrir par ta parole. D'une façon humble, nous prions que ton esprit, c'est lui qui fait l'œuvre réelle. Et que tu aides, Seigneur, à moi, à m'exprimer, à tous mes frères et sœurs, à comprendre ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Amen. Quand j'étais petit et j'allais à l'école, je me réveillais il y a quelques dizaines d'années. Je n'ai pas suivi six jours que je voulais. Mais je me réveillais plus ou moins à 8 heures. Et à cette heure-là, mon père était déjà parti pour leur travail. Et ma mère était sur le point de partir aussi. Il avait pour du temps pour même faire un petit bijou, un câlin pour partir jusqu'à l'après-midi. Donc normalement, il était assez pressé et elle laissait écrit sur la cuisine, sur un petit post-it dans le frigo, les plus importants à retenir sur ces journées. Donc prends ton cartable, moi, j'arrivais à apprendre ça, mais surtout rappelle que l'après-midi, il y aura par exemple rendez-vous où il faut que tu prennes quelque chose pour ta soeur, ton frère petit. Tout c'était synthétisé là-bas, c'était l'essentiel de ces jours. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons considérer une sorte de, permettez-moi la comparaison, une sorte de post-it, une sorte d'essentiel, l'essentiel que Paul partage avec Timothée. Dans le premier chapitre que nous avons déjà considéré, Paul rencontre toutes les difficultés que l'Église faisait face et que Timothée, en tant que futur pasteur, il allait faire face aussi. Opposition qui grandissait petit à petit, parce qu'il y a pas mal de lettres, pas mal de textes dans tout le Nouveau Testament dédié à expliquer qu'est-ce que c'est l'Évangile, mais aussi qu'est-ce que ce n'est pas l'Évangile, à cause de la hérésie et à cause de la opposition de la fausse doctrine. Donc Paul explique et Paul raconte dans ses premiers chapitres les passés, les difficultés. Il utilise aussi quelques analogies avec ce qui s'est passé avec Moïse à l'Ancien Testament. Il raconte les difficultés actuelles. Et dans le chapitre 3, que récemment nous avons médité, il raconte aussi la menace croissante qu'il viendra sur le temps de Timothée. Tout ça grandit et tout ça développe petit à petit jusqu'à ces 5 versets que nous allons méditer aujourd'hui. Ça, c'est les climax, si vous me permettez, dans cet épître. Ça, c'est les commandements formels, les mandats formels, la charge que Timothée, s'il avait un frigo, comme nous tous nous avons dans la cuisine, il devait prendre les post-it et les coller sur le frigo afin de pouvoir les lire chaque matin avant, avec le café, avant de partir, ou chaque soir avant d'aller coucher à dormir avec les chocolats chauds. C'est la synthèse, ce qui résume l'essentiel de son ministère et aussi de notre ministère en tant qu'Église. Permettez-moi de lire ces versets 12e. Timothée, chapitre 4, verset 1. 2 Timothée 4. Je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, quelle que soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conforme à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. L'hérésie, la fausse doctrine, est une menace réelle, est une menace croissante. Comme les mauvaises herbes qu'on a dans les jardins. On voit ces mois dont nous sommes presque sur le point de finir les printemps. Il y a pas mal d'activités des jardiniers, pas mal d'activités des voisins qui enlèvent toutes les mauvaises herbes, toutes les ronces qui puissent là-bas au nouveau lopin. Il y a les dangers qui détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux. La fausse doctrine, l'hérésie, c'est une sorte de mauvaise herbe qui grandissait, qui commençait à grandir dans l'Église et qu'il fallait la détecter, il fallait la combattre. C'est pour ça que Paul rappelle à Timothée, demeure dans la parole. Ça, c'est le seul antidote, le seul moyen de combattre et de vraiment protéger ces saintes doctrines. Demeure dans la parole, on avait considéré il y a quelques semaines. Demeure dans la parole et les choses que tu as apprises et reconnues comme certains. Ça, c'était un mandat formal. Prêche la parole. Ça, c'est le titre que j'ai mis sur ces messages. Prêche la parole. Et le titre qu'on pouvait même mettre dans toute cette épître du 12e Timothée. Mais laissez-moi parcourir deux aspects principaux. Deux aspects relié à la prédication de cette parole. Prêche la parole, c'est la mission par excellence. Mais il y a deux aspects que ici Paul partage avec Timothée. D'abord, quelles sont les motivations pour prêcher? Qu'est-ce que ça nous pousse à prêcher? Qu'est-ce qui devrait pousser à Timothée à prêcher? Et deuxièmement, comment prêcher? Qu'est-ce que ça implique? Premièrement, quelles sont les motivations pour prêcher la parole? Si vous remarquez dans le verset 1, je t'en supplie devant des dieux et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Nous, la première motivation pour prêcher, c'est maintenir le regard sur l'éternité. En fait, c'est ce que nous venons de faire avec la Sainte Cène. Chaque fois que nous nous réunissons et nous partageons les symboles, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenir le regard sur l'éternité, c'est la motivation principale. Je crois que vous êtes habitués à regarder quelques films d'action, le cinéma, à la télé. La formule de Hollywood, c'est normalement la même. Il y a un protagoniste, il y a une protagoniste qui reçoit une mission à faire. Donc tout ça développe bien. Il commence à faire face à tous les ennemis, à toute l'opposition. Il y a un moment où la faiblesse est là. Et le protagoniste, il fait un peu il doute un peu, même s'il considère abandonné, mais il considère s'il est capable de poursuivre sa mission. Et à certains moments, la musique, donc il y a une petite musique un peu calme, il y a parfois une photo de la famille, une photo de son père, sa mère, quelque chose qui évoque un peu et qui aide à se souvenir de la raison pour laquelle le protagoniste est en train d'accomplir sa mission. Et après cela, la musique monte, il se révèle avec toute la puissance et il poursuit jusqu'à la fin du film. Cette petite illustration permet aussi d'illustrer ce que Paul rappelle ici à Timothée. Si nous gardons ces photos, Ces photos imaginaires qu'on n'a pas, vues, mais qu'on croit et on attend, ces photos de Jésus qui va venir à juger, qui va venir avec son royaume dans toute sa gloire, si on garde ça, ça c'est la façon vraiment de poursuivre, ça c'est la raison qui nous motive à poursuivre dans notre prédication, maintenir le regard sur l'éternité. Ici, dans notre traduction française, ce n'est pas si évident, mais le sens dans l'original, c'est Jésus qui est sur le point de juger. Il a un emphasis immédiat. Paul vraiment croyait que cet événement était sur le point de s'accomplir. Après 2000 ans, pour Dieu, 2000 ans, c'est rien, c'est comme un jour. Et nous devons aussi garder ce concept d'immédiat. Jésus qui est sur le point de juger. Ça, c'est la première motivation pour pouvoir prêcher, pour n'arrêter pas, maintenir le regard sur l'éternité. On n'a pas le temps, évidemment, aujourd'hui de parcourir tout l'épître, mais seulement je voulais souligner un verset qui est pour illustrer que Paul aussi gardait toute cette vision sur l'éternité. Timothée, 2 Timothée 2:11. Paul écrit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Ça, c'est seulement un exemple parmi tous les épîtres où nous voyons que Paul garde ça en tête, maintenir le regard sur l'éternité, sur le jugement et sur son royaume. Mais il y a autre motivation que nous voyons ici, dans le verset 3. C'est ici, Paul l'explique en concept négatif. Mais nous lisons, en fait, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine. La deuxième motivation qui nous pousse, nous encourage à continuer notre prédication, c'est protéger la sainte doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots un peu bizarres, si c'est la première fois que vous avez entendu? La sainte doctrine, c'est les saintes paroles. Paul utilise différentes façons de référer à tout l'enseignement de Dieu, à la vérité. Dans le premier chapitre, il parlait des saintes paroles. Dans le chapitre 2, il parlait de la parole de vérité. Ici, il exprime le même concept en disant la sainte doctrine. L'ensemble d'enseignements que nous voyons dans toute l'Écriture, Paul venait de dire dans le chapitre 3, toute l'Écriture est inspirée par Dieu et utile pour instruire dans la justice. Toute l'Écriture. Tout ça, c'est l'Écriture, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine est bonne. La sainte doctrine nous amène à la réconciliation avec Dieu. La sainte doctrine nous amène à chercher la gloire de Dieu. Il nous conduit, il nous aide à obéir la vérité. La sainte doctrine n'est pas toujours agréable parce qu'elle signale le péché. Elle discerne toutes les intentions, toutes les pensées de notre cœur. Et aussi, il est une source magnifique de consolation et de paix. Il nous pousse à nous rassembler chaque fois vers le Christ. La fausse doctrine, par contre, est comme les mauvaises herbes dans le jardin. Il pousse, mais il n'y a aucune valeur. Il menace de détruire ce qu'il y a autour d'eux. Ne cherche pas la gloire de Dieu, mais surtout cherche la gloire des hommes, la propre gloire. La sainte doctrine est mauvaise parce qu'elle cherche à satisfaire, comme nous voyons ici, les désirs humains. Pas la gloire de Dieu, mais les désirs humains. Ne cherche pas la gloire de Dieu, mais plutôt la gloire des hommes. Elle est donc idolâtrie. La sainte doctrine est idolâtrie. Et au lieu de signaler les péchés, il cherche plutôt à justifier les péchés et à justifier notre propre désir. Dès le début de la Bible, même dans le premier livre, en parcourant toute la Bible jusqu'à le Nouveau Testament, nous voyons toujours ces corrélations, ou même ces causalités, si vous voulez. Idolâtrie, fausse doctrine, immoralité sexuelle, rébellion, désobéissance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ici, c'est tragique. Parce qu'il ne parlait pas dans ce contexte ici des non-croyants. Il ne parlait pas des gens qui n'ont jamais écouté ces paroles. Il parle ici des croyants qui, une fois, étaient près de la vérité, qui même enseignaient la sainte doctrine et enseignaient la vérité, et qu'ils ont détourné les deux pour poursuivre des fables, des mythes, des autres mensonges. Ils ont tourné les dos pour s'éloigner de Dieu. Ça, c'est le côté tragique de ce passage. C'est triste. Et pourquoi ils ont fait ça? À la lumière de ce passage, on voit à la lumière de tout l'épître, nous voyons qu'à un certain moment, ils ont fait clac, ils ont aimé eux-mêmes, ils ont aimé son désir plutôt que Dieu. Il y a quelques semaines, Steve partageait le chapitre 3 avec tous les mots qui commencent par Philo, qui aime l'argent, aime le pouvoir, toutes les choses que nous voyons dans le monde. Ils aiment eux-mêmes plutôt qu'aimer Dieu. À certains moments, ils ont changé les chips, ils ont tourné les dos, ils ont allé poursuivre l'accomplissement de ses désirs. Ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas la première fois que ça arrivait dans l'Église ou dans le peuple d'Israël. Si vous voulez lire à la maison les chapitres 2 de Jérémie, la prophétie de Jérémie, nous trouvons en essence exactement ce que nous lisons ici aujourd'hui. Jérémie 2, je vais seulement souligner trois versets pour illustrer ces mêmes tristes réalités. C'est Dieu qui parle dans le verset 5 de Jérémie 2. « Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre les idoles ?»« Quelle injustice vous avez trouvé en moi ?»« En fait, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis les sources de vivre, pour se creuser des cisternes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Et en plus, à la suite, le verset 35 dit « Mais c'est là, tu dis, oui, je suis innocente, certainement que sa colère s'est détournée de moi, j'ai rien fait, mais je vais te juger sur ce que tu as dit. Je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai pas commis de péché. » Voyez-vous ici les effets de la fausse doctrine. Il justifie les péchés, mais aussi il nous rend aveugles à toutes sortes de péchés. Parce que la sainte doctrine est annoncée à Jésus ressuscité et est annoncée aussi le jugement qui viendra avec son royaume dans toute sa gloire. La fausse doctrine cherche à apaiser l'esprit, à dire tout va bien, j'ai besoin de poursuivre mes désirs, mais avec la paix d'esprit. C'est pour ça qu'ils ont, ils se sont entourés des maîtres qui racontaient toutes sortes de fables. Mais la sainte doctrine est annoncée toute la parole de Dieu, sans y ajouter, sans y enlever, sans mettre pas l'emphasis dans quelque part que nous croyons plus important, sans diminuer non plus l'importance dans quelque part que peut-être nous ne comprenons pas. Toute la Scripture est inspirée. Et dans les post-it que Timothée, nous imaginons, qu'il avait dans son frigo. Le titre était « Prêche la parole, prêche la sainte doctrine, protège cette sainte doctrine ». Remarquez-vous que la tâche par excellence de Timothée n'était pas vraiment faire que tous les croyants se sentaient bien. C'est très chouette, c'est incroyable après un an et demi de pouvoir être ensemble. Mais la parole de Dieu n'a pas pour top priorité nous faire sentir bien. Ça, c'est pas la tâche prioritaire du ministère. La tâche de Timothée n'était non plus à faire grandir l'Église sur le point que ce soit l'Église la plus grande d'Éphèse ou de toute Asie. La tâche de Timothée n'était pas non plus à maintenir les bonnes relations avec les autorités. Mais si on peut les avoir, ça c'est super. Mais ce n'était pas la top priorité. Ce n'était pas la tâche inclure l'Évangile, Jésus, dans tous les catalogues religieux qu'Éphèse avait dans toute sa ville. Ce n'était pas la tâche prioritaire. C'était prêcher la parole. Et que la parole. Lorsque nous arrêtons, et fixez-vous, remarquez ça, lorsque nous arrêtons de maintenir le regard sur l'éternité, lorsque nous arrêtons d'avoir cette photo de Jésus en revenant dans toute sa gloire, lorsque nous perdons ça en tête et nous commençons à nous regarder nous-mêmes et à considérer de plus en plus nos désirs, alors nous ouvrons la porte à toutes sortes d'hérésies, à toutes sortes de fausses doctrines qui cherchent à justifier nos propres pensées. Voici les deux motivations qui ça nous pousse à vraiment prêcher la parole et à protéger cette doctrine. Mais deuxièmement, comment faire ça? Lisons-nous les versets 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, quelle que soit favorable ou non. Premièrement, comment prêcher la parole? D'une façon constante, sans attendre les moments parfaits. C'est ce que nous voyons ici. Insiste en toute occasion, quelle que soit favorable ou non. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire? Insister n'est pas être devenir lourd ou être vraiment répétitif ou poursuivre les gens par la rue en lisant la Bible. C'est pas les sens d'ici insiste. C'est plutôt les sens d'être toujours visible, que tout le temps il est de prédication, que nous n'attendons pas les meilleurs moments pour dire ou pour prêcher la parole en public. Nous comprenons très bien le contexte politique. Tout politicien, il est entouré de conseillers. Les conseillers, sa tâche principale est de faire des sondages pour voir un peu le climat social et maintenir silence. Il y a des moments où il rien dit parce que c'est un peu dangereux pour les conséquences. Il y a des moments où il fait dépense tout son temps dans des entretiens, dans la radio, dans la télévision. Son discours est très adapté aux besoins et aux désirs des électeurs. Le seul but, c'est de grandir en popularité. Donc, il choisit les meilleurs moments pour dire ou ne pas dire certaines déclarations. Ici, Paul demande à Timothée, avec ses mandats formels, surtout, ne fais pas un sondage électoral. Ne fais pas un sondage de la météo. Prêche toujours la parole, même si c'est favorable le moment ou pas. N'ayez pas peur des conséquences de prêcher toute la parole. Bien sûr, nous aimerions que comme Pierre, si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, chapitre 10, que Pierre, que quelqu'un vienne frapper notre porte et voici, nous sommes prêts, moi avec toute la famille, pour écouter le message de salut. Ça serait idéal, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où il aura, bien sûr, et Paul dit, c'est lui qui veut vivre d'une façon honnête, d'après les mandats de Jésus, il va faire face à de l'opposition. Attendre les moments parfaits mène à la paralysie. Attendre les meilleurs moments pour partager l'évangile, ça nous mène à ne partager presque jamais. La responsabilité de Timothée et la nôtre aujourd'hui est de s'aimer, même si on voit que le moment est favorable, ou même si on prévoit d'opposition, s'aimer toujours, parler toute la vérité sans peur. Et je suis très conscient que dire ça, c'est trop facile pour moi aujourd'hui. Ici en Belgique, en fait dans tout pays européen, je suis conscient qu'il y a des frères et sœurs qui vraiment ils font face à l'opposition et met sa vie en risque et met la vie de ses familles en risque. J'ai dit ça avec un peu la bouche petite, j'ai jamais vécu. Je crois presque il y a quelques frères ici qui ont vécu en Afrique vraiment d'opposition. Ça c'est un grand mot, parler d'opposition. Il faut vraiment le courage de l'esprit et la certitude de que Jésus viendra pour faire face à cette opposition. Que Dieu nous aide aussi dans ce sens-là, à être prêts ici en Belgique, Mais nous, c'est magnifique de pouvoir avoir un culte ici, en pleine liberté, dans la joie. Mais préparons-nous aussi. Peut-être quand le temps ne sera pas si favorable que maintenant. Comment prêcher d'une façon constante? Mais deuxièmement, en réfutant l'erreur et en nous encourageant. Disons-nous, cette deuxième partie du verset 2, réfute, reprend, encourage. Ne vous inquiétez pas si vous, vous lisez un mot un peu différent dans vos Bibles. Parfois, ça change un peu. Convaincre, censure, exhorte. Il y a quelques variations, mais toujours l'essence est la même. Réfute, reprend et encourage. C'est une sorte de séquence logique. Ici, Paul encourage à induire un changement dans les personnes qui écoutent l'Évangile. Prêcher n'est pas une classe théorique, n'est pas une classe de théologie. Prêcher n'est pas seulement partager information. Voici ce que Dieu a écrit, tout là, maintenant. Prêcher, c'est induire à un changement. C'est induire les gens à être plus proches, à être réconciliés avec le Dieu créateur de tout l'univers. Il y a un composant actif pour bouger les gens. Parfois, ça demande de réfuter. Qu'est-ce que ça veut dire réfuter? Signaler l'erreur, confronter, convaincre avec des arguments, dire clairement, désolé, ça c'est pas vrai. Et voici pourquoi. Parce que la parole de Dieu dit ça. Ça va pas. Ça c'est pas la sainte doctrine, d'après ce que Dieu a inspiré dans sa parole. Réfuter, avec toute patience et tout désir d'instruire. Pas jamais, d'après la supériorité intellectuelle ou morale, non. Avec toute douceur et humbleté, mais réfuté avec le courage. Ça, c'est pas correct. Il y a des gens qui persistent, même si on signale l'erreur en utilisant les saintes doctrines. Et ils persistent à enseigner, comme était le cas d'Hyménée et Philète, qu'on avait lu quelques semaines dans le chapitre 2. Et des gens qui disent s'obstiner et ouvertement vont contre Dieu. Dans ces cas-là, l'autorité est un peu plus intense. Reprends, censure. Ces gens-là, même si la réfutation, c'est un peu plus dans le côté des arguments, la réfutation, la censure, la réprimande, c'est dirigé contre quelqu'un. Cette personne-là enseigne des choses trompeuses. Donc attention, tu n'es non plus un personnage, on dirait, non grata. Tout enseigne et persiste d'enseigner quelque chose contraire à la sainte doctrine. Et Paul vraiment est sévère dans le 1er Corinthiens, quand il dit que toutes sortes de frères et sœurs qui persistent dans l'idolâtrie ne mangez plus avec eux. Il ne peut pas avoir de fraternité, de communion fraternelle avec quelqu'un qui persiste à enseigner ou à pratiquer la fausse doctrine. Ça, c'est le sens plus autoritaire et plus dur que nous trouvons ici. Censure. Toujours avec la douceur et toujours avec la humilité, mais ça, c'est la ligne rouge. On ne peut pas avoir des communions fraternelles. Mais aussi, nous trouvons le troisième verbe, encourage. Ça, c'est les mots les plus durs. Le sens, c'est encourager, aider quelqu'un à progresser. Aider quelqu'un à grandir d'une façon spirituelle. Utiliser la parole pour encourager, pour dire « tu peux, vas-y ». Il manque seulement ça. C'est Dieu qui est fidèle. Je me souviens quand j'étais allé à la prédication, quand j'allais à l'institut, ça c'est déjà quelques années, mais il y avait une prof de sport, où nous devions courir 3 tours à tout l'institut. L'institut peut-être était ici comme Don Bosco. C'était donc il fallait vraiment faire un grand tour. Et les tours impliquaient, il y avait des pentes pour monter des escaliers. Donc dans les entraînements, j'étais pas les mieux, on va dire. Donc à cette époque-là, je n'aimais pas courir. Et en plus, la prof était à 8h du matin. Donc si je dois faire des sports, je peux faire le soir, si je peux choisir. Donc ça n'avait pas... ce n'était pas vraiment mon désir. Mais j'avais un collègue très intelligent et aussi très sportif. Il avait fait les tests la fois passée, il avait fait vraiment 10 sur 10. Il avait vraiment, chaque week-end, il faisait des sports très, très, très bien, des compétitions. Donc, très gentiment, il a souffert pour courir en face de moi, en demandant la permission des profs. Il a couru comme 10 mètres pour m'encourager. C'était moi qui était sur le point d'être examiné. Lui, il avait déjà fait, mais très gentiment, il courait. Et quand il voyait que mon rythme était un peu plus doux, il m'encourageait. Il dit, allez, tu peux, attention que tu vas passer le rythme, mais tu peux, vas-y, suive-moi. Donc ça m'a aidé beaucoup de courir derrière lui. Pardon. Ça, c'est l'essence d'encourager. Encourager les uns avec les autres. Mon copain, ne signalez pas. Allez, comment tu fais ça? Non, ça, c'est pas la façon de courir. N'étais pas dans un esprit de jugement ou de critique, mais surtout d'encouragement. Tu peux, avec l'aide de Dieu. Et voici, je veux t'aider. Rappelle-toi de ces versets ici. Rappelle-toi de ce qui s'est passé là-bas. Utilisez les mots, la parole de Dieu pour nous encourager. Nous savons que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait cette offre en nous tous. Mais l'Esprit nous utilise dans des journées comme aujourd'hui pour pouvoir parler, pas seulement du football, de la victoire de la Belgique hier, mais aussi pour utiliser d'une façon sage la parole de Dieu pour nous encourager. Ça, ceci, ça fait partie de la prédication. Prêcher, ce n'est pas seulement les messages des dimanches matin. Ça, c'est une partie publique nécessaire. Mais ce n'est pas tout ce que ça implique, prêcher la parole. Et là, nous tous, vous tous, nous faisons partie de cette responsabilité. Il y a bien sûr une responsabilité, c'est clair, avec les pasteurs, avec les anciens, pour tous ceux qui demandent des réfutations en tant qu'Église, pour tous ceux qui compris à censurer quelqu'un et demander peut-être, donc ne prenez pas la Sainte Cène à cause de ça. Oh, s'il vous plaît, ça, c'est pas l'enseignement que nous pouvons permettre ici, dans cette église. Mais nous tous, nous partageons aussi la capacité de réfuter. Si vous voyez, vous lisez à la maison aussi Apocalypse, chapitre 2, il parle, Christ parle à l'église d'Éphèse. Il parle très bien. Il dit, tu as bien retenu la sainte doctrine. Et tu as testé ceux qui disaient être apôtres, mais c'était des faux apôtres. Tu as bien fait. C'était une responsabilité de toute l'Église. Donc ça ne sera pas juste et pas vrai de dire ça c'est 100% responsabilité de Steve, les anciens et les pasteurs assistants. Non. C'est la responsabilité de tout, de chaque membre de l'Église. Pour ça, il y a une lecture d'hier. Chaque jour, on partage la lecture de la Bible. Chaque semaine, on étudie la Bible. Grandir dans la connaissance de toute la doctrine, c'est une responsabilité de chaque membre de l'Église, de chaque croyant. Et pour finir, pas seulement nous devons prêcher d'une façon constante, et pas seulement en réfutant avec le courage et en nous encourageant, mais lisons-nous ici, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Et dans le verset 5, il dit, « Mets-toi, sois sobre en tout. » Troisièmement, nous devons prêcher en toute sobriété. Ce mot originalement veut dire avec l'absence d'alcool. Mais évidemment, ce n'est pas l'essence que Paul voulait transmettre ici à Timothée. Comment nous pouvons comprendre ce concept de sobriété? Si nous imaginons que la société est la mer, parfois la mer est calme, parfois il y a des oranges, quelqu'un qui prêche avec sobriété peut-être ressemble à un phare qui est ancré sur la roche et qui toujours illumine afin que tous les bateaux puissent s'y guider. C'est être sobre, c'est cette phare qui est ancrée dans la roche. Même s'il y a calme, la météo est bénévolente, ou même s'il y a des roches, même si la mer est pleine, ou même s'il y a des vagues qui frappent avec violence le phare, la position et la lumière ne changent jamais. Je trouve ça, cette illustration, ça m'aide à comprendre l'essence de la sobriété, de la prudence, de maintenir le regard au-dessus de tout ce qui se passe ici, de ne pas avoir des réponses colériques, impulsives, de ne pas être dans une sorte de débat interminable. Ça, c'est ce que Paul dit. Sois sage pour ne pas vraiment débattre tout jusqu'à l'infini. Donc, sois sobre. Maintiens ce regard sur l'éternité. Ne sois pas impulsif. Sois maître de toi-même. Il est un composant d'être maître de soi, cette sobriété. Aussi, en gardant ça en tête, ça nous aide à persévérer et à être patient. Patiente ici, ce n'est pas seulement attendre que le temps passe, mais il y a un composant actif pour persévérer. Ça, c'est l'essence de la patience. Donne toute patience, donne toute persévérance. Ça, c'est l'essence originelle, jusqu'à ce que Christ vienne. Et pour finir, le verset 5, accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne vous trompez pas, ne nous trompons de penser que ça, c'est son nom pour Timothée, pour Steve, pour Ben, pour Adrien, pour les anciens. Non. Ici, il parle de la tâche d'un évangéliste en majuscule. L'évangélisation ici, ce n'est pas un département de l'Église, c'est la mission par excellence. Et bien sûr, chacun de nous, on a un rôle. Il y a des gens qui sont dédiés tout 100% à prêcher, qui sont salariés pour l'Église, pour un but particulier. Il y a des gens que nous travaillons dehors, mais aussi on partage cette tâche, chacun dans son rôle. Mais nous tous, nous partageons la même mission. Nous tous partageons la même priorité. Et cette tâche d'évangéliste, en majuscule, c'est commun à nous tous. Prêche la parole. Ça, c'est la top priorité. Si nous maintenons le regard sur l'éternité et sur le royaume qui viendra, si nous protégeons ces sacs doctrines, si nous partageons ces paroles constamment, si nous faisons cela dans toute douceur, dans toute sobriété, pour réfuter avec courage, pour aider les autres, les frères et sœurs, avec amour, alors nous allons accomplir cette tâche d'évangéliste. Alors nous allons bien remplir la tâche de notre ministère, quoi que ce soit notre métier dans la société, quoi que ce soit notre rôle dans l'Église. Que Dieu donc nous aide comme Église à tenir ferme, à nous rappeler de cette faute que nous croyons, que nous attendons avec toute notre force et notre intensité. Que Dieu accorde sagesse aussi à Steve, à tous les corps d'anciens, à tous les pasteurs assistants, pour bien être toujours ancrés sur la roche, sous la sainte doctrine, et qui, d'une façon sage et courageuse, peut enlever les fausses doctrines qui nous espérons pas, mais peut-être ils puissent dans l'Église. Qu'il nous aide, en tant qu'Église, à utiliser ces paroles de vie pour amener les gens à la réconciliation. Ça, c'est notre but en tant qu'Église. Que nous puissions aussi, toujours avec ces confiances, et partager ces confiances avec laquelle l'apôtre Paul finit tout cet épître et que nous allons méditer d'ici à quelques semaines, dans le chapitre 4, verset 18, dit « Le Seigneur, quoi que ce soit qu'il arrive, me délivrera de toute offre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Il me fera rentrer sur son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.